France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Nous sommes mi-novembre 2025 aux États-Unis. Des agents fédéraux de l'immigration, le fameux ICE, ont lancé une grande campagne d'arrestation en Caroline du Nord. Pour comprendre ce qui se passe, des journalistes locaux ont l'idée de demander accès aux appels donnés par les citoyens au 911, en gros police secours américaine. Et l'émission géniale d'Ira Glass, This American Life, en a diffusé quelques-uns de ces appels. On y découvre des gens complètement désemparés par la violence inouïe des agents fédéraux qui ne savent plus vers qui se tourner et appellent donc la police. On entend par exemple une femme qui appelle à l'aide parce que toute la matinée, des vannes noires se sont présentées devant son immeuble en se faisant passer pour des dératiseurs pour que les gens ouvrent leurs portes. Elle pense que ce sont des agents de l'ICE et dit aux policiers que tout le monde a peur. Et en effet, partout dans le pays, on le sait, des agents d'ICE forcent les portes en se faisant passer pour des ouvriers, des employés des services publics ou même des policiers. Évidemment, la régulatrice de police secours ne sait pas trop quoi faire. « Vous voulez quoi exactement ?» dit-elle. « Vous voulez nous signaler que ça se passe dans votre quartier, madame ?» Et la dame au téléphone dit non, elle veut que la police vienne déloger ces agents qui enfreignent la loi et brutalisent les gens. Il faut vraiment écouter cet épisode où on comprend que des appels comme ça, la police américaine en reçoit des centaines. Comme si en France, on appelait police secours pour qu'ils viennent arrêter la brave M, jugée trop violente. Tout de suite donc dans les pieds sur terre, on reste en Amérique et on vous raconte ce qui se passe quand ces agents fédéraux de l'ICE s'en prennent à un jeune Français. Et c'est un récit d'Émilie Chaudet.
Je m'appelle Julien Pereira, j'ai 26 ans. Alors je suis arrivé aux États-Unis quand j'avais 17 ans en 2017. J'ai passé mon bac en France, donc c'était vraiment un peu une décision dernière minute. J'ai passé le bac et je me suis dit, bon, bah, je veux partir. Donc je suis arrivé en 2017 en université. C'était une université de management dans l'état de Géorgie, toute petite ville. C'était West Point, Georgia. Donc c'était vraiment passer de Paris à la Géorgie profonde, les rednecks, la campagne. Alors les premiers mois, c'était vraiment compliqué. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis venu là? Et je me disais, bah ouais, je vais faire mes 4 années, enfin ma licence, du coup un bachelor là-bas, c'est 4 ans. Et je me suis toujours dit, bah, je rentre en France après, c'est fini, je retourne à Paris avec ma famille. Quand on est étudiant, en fait, on a 4 ans de base pour faire nos études, 4 ans de visa. Et puis après, c'est renouvelable, on fait notre master, on peut renouveler notre visa étudiant. Donc j'ai fait 4 ans en Géorgie, après je me suis dit bah, pourquoi pas faire un master. Donc j'ai fait 2 ans de plus. Après cette année-là, en Caroline du Sud, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas aller travailler. Et j'avais une année de travail légal. Donc j'ai fait une année de travail légal proche de New York, au Connecticut. J'étais entraîneur de tennis et en même temps je manageais le club, donc je gérais les coachs, on était une quinzaine de coachs, c'était un gros club. Mais au bout d'un moment, en fait, on se commence à se dire, ouais, bah, la vie est sympa, on gagne bien notre vie là-bas, on a toutes nos connexions là-bas, on a tous nos amis, pourquoi pas faire, allez, 5, peut-être 10 ans de plus, puis après retourner en France quand on est confortable, quoi. Alors au début, on s'est jamais posé la question, ouais, Trump, ça va nous affecter, les questions immigratoires, ça va pas. On est rentré par la voie légale, on est des étudiants, on est bien installés, on paye nos taxes, on a nos appartements, on n'a pas de casier judiciaire derrière, donc on s'est pas senti en danger quand Trump s'est réélu, pas du tout. En 2024, j'ai fait les démarches pour renouveler mon visa. Mon employeur, toutes les 2 semaines, je le relançais. Ouais, vous inquiétez pas, Julien. Dans 2 semaines, vous avez le visa. Vous pouvez rentrer à la maison, voir vos parents, puis revenir travailler. On me donne une voiture de fonction, machin. Donc moi, je me disais, bon, bah, c'est la vie, nickel. Franchement, tout se passe bien. Je vais au travail le lundi 3 mars. Mon employeur m'appelle alors que je suis sur la route. Et il me dit, bah, Julien, il y a un petit souci avec ton visa aujourd'hui. L'avocat vient de m'appeler, faut que tu partes des États-Unis aujourd'hui, sinon les dates vont être dépassées, tu pourras pas renouveler ton visa. L'avocat me dit que dans 2 semaines, normalement, tout est réglé, vous pouvez revenir aux États-Unis de façon légale. Du coup, la dernière option, c'était de partir avec ma voiture au Canada et d'aller à Montréal pendant 2 semaines. J'avais 2 colocataires et je leur dis, écoutez les gars, je vais partir normalement pour 2 semaines. Au revoir, ciao, j'ai fait un petit sac de sport, j'ai mis ça dans la voiture et il me restait quelques heures juste pour partir des États-Unis. Du coup, j'ai conduit 6 heures sans arrêt, direction Canada. Et en fait, plus je me rapprochais de la frontière canadienne, plus je me dis, c'est quand même assez bizarre ce qu'on me demande de faire. J'arrive juste avant minuit à la frontière canadienne. Donc j'explique à la frontière canadienne, j'ai un petit problème de visa aux États-Unis. Mon employeur m'a dit, passez au côté canadien, j'ai déjà mon hôtel, j'ai des amis à Montréal. Et le Canada me demande une preuve de renouvellement de visa. Du coup, j'appelle mon avocat, j'appelle mon employeur, est-ce que vous pouvez me donner une preuve de renouvellement? Et c'est là où mon avocat et mon employeur me disent, on n'a jamais fait les démarches. Et là, j'essaie d'expliquer ça à la frontière canadienne, et le Canada me fait, très clairement, vous ne pouvez pas passer au Canada. Et du coup, juste après, on me remet côté américain, à la frontière américaine, où je dois réexpliquer ma situation, du coup, à la douane américaine. Donc, on monte notre passeport, pourquoi vous venez ici, machin. Alors, je leur explique, écoutez, je suis en renouvellement de visa. Moi, je veux juste quitter les États-Unis, je veux rentrer en France. Et là, ils me disent, écoutez, on va vous emmener dans une salle, on va regarder votre situation. Vous allez donner votre téléphone, vous allez donner votre ordinateur, toutes vos affaires, les mots de passe. OK. Je pensais vraiment que ça allait s'arranger. Et là, ils me disent, écoutez, il n'y a jamais eu de renouvellement, il n'y a rien. Vous êtes en train de nous mentir. Et je leur explique très clairement, non, moi je veux juste partir des États-Unis, j'ai toujours fait dans la légalité, j'ai renouvelé mon visa plusieurs fois avant. Est-ce que je pourrais appeler le consulat, mon avocat? Non, là vous n'avez pas d'avocat, vous n'avez pas de consulat, vous n'avez pas les mêmes droits que les Américains. Vous allez attendre et on va décider de votre situation. Je leur dis, écoutez, moi je paye mes taxes, j'ai pas de casier judiciaire, j'ai jamais eu d'amende pour excès de vitesse, rien, je suis très bien intégré à la société. Oui, mais ça nous importe pas, monsieur. Donc on me dit, on va vous mettre dans une cellule, monsieur, pour attendre la décision du juge. J'ai un appel de mon avocat au bout de quelques heures, et il me dit, vous inquiétez pas, on sait pas trop parce que c'est la nouvelle administration Trump, les règles changent beaucoup, mais quand c'était l'administration Biden, c'était juste l'histoire de quelques heures, vous sortez assez rapidement, vous prenez votre vol, l'histoire est finie, pas de soucis. Et au final, pendant 3 jours, je suis dans la cellule, en fait. C'est vraiment une cellule, peut-être 4 mètres carrés. Vous avez un banc en métal, des toilettes avec un évier dessus, pas de fenêtre. 4 murs autour de vous, une porte en métal avec quelque chose pour ouvrir, vous regardez toutes les 15 minutes. La lumière tout le temps allumée, il faisait froid. Certains des gardes venaient vous voir de temps en temps, vous donner des barres céréales pour manger, parce qu'on n'avait pas de nourriture en fait. On nous donnait des barres céréales, une bouteille d'eau ici et là. Et je leur dis, écoutez, est-ce qu'il y a un peu d'avancement? On peut rien vous dire. Et dans la tête, ça commence vraiment à tourner, on tourne en rond dans la cellule, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire là? Et au bout d'un moment, on est tellement stressé que... On tape sur le mur, on s'ennuie tellement pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, on nous fait sortir. Et quand le juge décide, c'est soit on vous laisse repartir et vous prenez le premier vol et vous partez, ou alors vous partez avec ICE, donc la police de l'immigration. Et dans mon cas, c'était ICE. On me sort de la cellule, on m'enlève les lacets des chaussures et on commence à mettre des menottes. Mais c'est quand on commence à mettre les chaînes autour des hanches et au niveau des pieds. C'est quand même beaucoup, je les regarde, je leur fais, les gars, je pense être un bon citoyen, je pense j'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais fait de crimes graves ou de gros délits. Désolé, c'est comme ça, c'est la procédure, monsieur. Vous êtes emmené dans un centre de détention fédérale, vous montez dans le bus et puis voilà, vous y allez quoi. Attaché tout le long avec deux autres détenus, du coup, un roumain et un cubain. J'ai la chance de parler espagnol, du coup, bah, je parlais avec le cubain. Et il me dit, ouais, ton cas, pas de souci, dans 2-3 jours, t'es sorti, pas grave. Donc, et on arrive vraiment au milieu de nulle part, c'est à Batavia, pas très loin de Buffalo. Et là, on commence à voir des miradors, des grillages énormes, des barbelés partout, plusieurs étapes pour passer. Et je vois le signe Federal Detention Center et je me dis, mais en fait, là, mais c'est un mauvais film, en fait, là. J'ai l'impression d'être dans la ligne verte, quoi. Alors on arrive déjà et en fait, bah pareil, on donne notre sac, ils foutent tout notre sac, ok, ordinateur, on compte combien de t-shirts vous avez, on donne notre portefeuille, carte d'identité, ok, ah vous êtes français, mais qu'est-ce que vous faites là? Bah je sais pas ce que je fais là en fait. Ils prennent notre argent, je rends ma montre, tout quoi, et là il y a une série de questions qui commencent à se poser. Ok, de quelle religion êtes-vous? Bah moi, je suis catholique. Avez-vous des tatouages sur vous? Bah non, j'ai aucun tatouage, monsieur, rien. Pourquoi êtes-vous là? Donc on explique la situation encore. Est-ce que vous avez un avocat? Oui, monsieur, j'ai un avocat. Après, on va voir un docteur. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous suicidaire? Êtes-vous homosexuel? Est-ce que vous avez un cancer? Est-ce que vous êtes détenteur du virus du sida? Est-ce que vous êtes dépressif? Bon, bah là, je suis pas dépressif, mais je suis pas à fond, là, quoi. Là, vous allez mettre l'uniforme pénitentiaire. Vous êtes classe minimum, du coup, vous serez en bleu. Classe 2, ça sera classe moyenne avec certains délits, c'est les oranges. Et les classes rouges, bah, c'est les détenus dangereux. Donc, on me donne des draps. Et, ok, monsieur, vous allez vous suivre, on va vous mettre dans l'unité maintenant. C'est un gros dortoir. Il y a des lits à étages. Une salle avec des tables, des douches communes, des toilettes communes, mais tout est ouvert en fait, donc on voit tout ce qui se passe. Il n'y a pas de cellule, il n'y a rien, c'est juste un énorme espace. Il y avait à peu près 80 détenus sur cette unit, donc on passe la porte, et il y a 80 personnes qui vous crient dessus, des mots en espagnol, des cris d'animaux. Et... Je rentre dans quoi là en fait? Je rentre dans quoi? Je me dis, bon bah là, faut rien montrer. Mais à l'intérieur, on se fait dessus, quoi. On se met dans un coin, quoi, et au bout d'un moment, bon, je me rappelle qu'il y avait un détenu israélien qui vient me voir et fait « Bon, bah, t'inquiète pas, tout le monde vous crie dessus, mais c'est juste la tradition, c'est comme ça, dès qu'il y a un nouveau détenu, on lui crie toujours dessus. » Et du coup, je commence à parler avec un peu tout le monde. Et en fait, je me rends compte que la plupart des gens sont très gentils, quoi. Enfin, on rigole. Donc les premiers jours, en fait, on était surpeuplés dans l'unité. Du coup, en fait, j'avais juste un matelas par terre. Et on me dit, bah, t'es là, tu dors par terre. Tous les jours, on se réveille, il me semble, c'était à 5 heures. Lumière toujours allumée. Vous allez manger, là, petit déjeuner. Mais c'est toujours dans la même salle. On nous donne un petit plateau. Franchement, la nourriture était quand même assez hard. Il y avait des comptes, donc... Il me semble que c'était toutes les 3 heures, à peu près. On se met devant notre lit, on reste debout, et puis le garde va compter le nombre de détenus. Si tout le monde est toujours bien là, personne ne s'est évadé. On vous attribue un nombre. Détenu numéro 2155, présentez-vous devant le garde. On a quand même accès à des téléphones pénitentiaires, du coup, bon, bah, faut payer, c'est assez cher. 2 dollars la minute. Donc c'est vraiment, j'appelle mon père, je dis, bon, écoute, je suis là... Je sais pas où ça, si ça avance. Mon père était toujours en contact avec mon avocat, du coup, bon, il savait, même si mon avocat était complètement perdu aussi. Moi, j'y étais que pendant un mois en total, dans tous les centres de détention, un mois. Mais il y avait certains détenus, ils étaient là depuis déjà 6 mois, 1 an, 2 ans. Il y en avait un, ça faisait 5 ans déjà. Tout le monde est déprimé, il y en a qui ont des idées suicidaires, il y en avait un qui faisait une grève de la faim. Il y en avait qui étaient en chaise roulante, qui pouvaient plus marcher. Et en fait, je me dis, bon, bah, ça va, moi, j'ai un avocat. J'ai quand même un minimum d'argent pour pouvoir appeler mes proches. Certains détenus n'ont pas d'avocat, n'ont vraiment pas d'argent. des pays où vraiment, s'ils rentrent chez eux, ils se font couper la gorge. Donc moi, j'étais là, je fais bon. Je suis dans une mauvaise situation, mais pas la pire des situations, quoi. Vraiment, il y a pire. Il y a pire. J'étais censé, on m'avait annoncé au bout d'une semaine dans ce centre-là que j'allais passer devant un juge pour pouvoir sortir. La date était fixée au 18 mars, mais trois jours avant, on vient me voir, on me réveille. Écoutez monsieur, signez ce papier, vous allez changer de centre de détention. Vous allez soit passer au Texas, soit en Californie. Je leur dis, bah non, moi j'ai un jugement dans trois jours, j'ai pas envie de partir, quoi. Fait, ah bah non, c'est comme ça, vous partez, que vous signez pas, peu importe, vous signez pas, vous serez encore plus dans la merde, parce que vous coopérez pas. Du coup, je signe, j'appelle mon avocat, et mon avocat fait, bon bah, si vous partez au Texas, bah là, y a plus de libération conditionnelle, c'est au minimum 6 mois. Elle me dit, la Californie, c'est un peu plus simple parce que c'est un état un peu plus démocrate, un peu plus clément envers les immigrants. Du coup, vous pouvez partir, en général, plus rapidement. J'ai essayé d'appeler mon père juste après, et en fait, ma ligne a été coupée. Du coup, en fait, mon père n'était même pas au courant. Donc, on nous met dans une salle d'attente, où en fait, il y a une cinquantaine de détenus dans la même salle d'attente, pendant 7-8 heures, quoi. On est tous menottés. Et en fait, tout le monde est tellement stressé que bah, y en a qui s'insultent, il y en a qui commencent à se battre. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on se met dans un coin, on s'assure qu'il y ait personne derrière nous, et puis bah, s'il y a un mec qui vient, on se bat, quoi. Mais c'est pas le but non plus, quoi. On nous met dans un bus. Et je me rappelle qu'il faisait vraiment très très chaud dans ce bus-là, ils avaient mis le chauffage à fond, on n'avait pas d'eau, on n'avait rien. On arrive sur l'aérodrome, c'est un aérodrome militaire régional. Et l'avion avait du retard, donc en fait ils ont posé le bus, chauffage à fond, sur un parking, le soleil qui tape fort, pendant tout peut-être 4-5 heures. Et on essaye de parler aux gardes, écoutez, est-ce que vous avez de l'eau, parce qu'il commence, il fait vraiment chaud, on a vraiment soif. Les gardes qui nous écoutent pas, qui vont fumer une cigarette en dehors du bus, qui rigolent, machin. Bon. Et au bout d'un moment, y en a qui commencent à taper sur les grilles. Bon, écoutez, là, il nous faut vraiment de l'eau parce qu'on se sent vraiment pas bien. Y en a qui commencent à faire des malaises. Est-ce que vous pouvez au moins baisser le chauffage et mettre la clim, quoi? On les voit revenir dans le bus et en fait, ils mettent la radio à fond juste pour plus nous écouter. On est des animaux, en fait. On est traités comme des animaux. Les officiers de l'ICE, bah, très clairement, ils en ont rien à faire. Hein. Ils font leur travail, mais il y en avait, c'était vraiment des ordures, quoi. Des ordures. Après, l'avion arrive. L'état de New York à Californie, il me semble que c'est à peu près 6 heures d'avion. On atterrit, pareil, toujours menotté. Il commence à se faire tard dans la journée, tout le monde est fatigué. Pas d'eau, pas manger, rien. On retourne dans un autre bus, pareil, pénitentiaire, pour nous ramener dans le centre de détention à Otay Mesa, juste à côté de San Diego. On arrive dans une première unité, c'était des cellules de détenus. Donc j'étais avec un premier détenu à la base qui était syrien, et quelques jours après un ouzbek. L'Ouzbek, lui, était sous un visa sportif, c'était un lutteur professionnel, qui était juste venu pour faire des tournois. Et il s'était fait arrêter sur l'autoroute, officier de police qui fait « bon, vous m'avez l'air de travailler, là, vous avez des taches de peinture sur votre blouse. Ben non, moi j'ai un ami ici, j'ai peint chez lui, juste pour l'aider. Ah non, mais là, c'est suspicion de travail, on va ramener ICE, vous allez être détenu. » Du coup, il était là, en fait, il fait « mais je comprends pas pourquoi je suis là non plus, mon visa est valide, je suis juste venu là pour faire de la lutte. » Donc on est vraiment là, on essaie de parler avec d'autres détenus, mais on se dit « bon, bah c'est juste day by day, jour par jour, et c'est pas grave, ça sera un meilleur jour demain si ça s'est pas bien passé aujourd'hui. » Le plus compliqué, en fait, c'est de pas savoir quand on va pouvoir sortir. On entend des histoires, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 mois, ça fait 1 an. On peut pas se projeter, en fait, et c'est ça le plus stressant. Le plus stressant, c'est en fait de se dire aussi, bah, dans 2 semaines, ça se trouve, on va me transférer dans une prison au Texas, et là, je me tape minimum 6 mois, quoi. C'est fatigant et je me rappelle d'une matinée où en fait je me réveille à 5h, 4h du matin et j'ai jamais senti ça de ma vie, en fait, crise de panique. Je perds le contrôle de mon souffle, tachycardie, tout ça, et en fait je fais, mais j'ai l'impression que je crevais ici en fait. Donc j'ai eu plusieurs jugements. Premier jugement pour défendre mon cas, donc tout se passe bien. Des citoyens américains que je connaissais, des amis, ont fait des lettres pour moi. Ok, Julien Perra, bon citoyen, il est bien intégré. Mes diplômes, tout, donc on défend mon cas. Le juge qui regarde tout, ouais, très bien, je comprends pas vraiment ce que vous faites ici, monsieur. Mais là, sur le dossier, il manque une signature de votre avocat, donc je peux pas accepter votre cas. Et mon avocat, il n'a pas d'argument. Donc je prends quelques jours de plus. Le juge, avant de partir, me dit, bon, bah écoutez, monsieur, je pense qu'il faudrait que vous changiez d'avocat. Même ma défense, elle est contre moi, elle est à la limite, quoi. En fait, je me prends des jours de plus, des semaines de plus. Mon avocat est incompétent, très clairement, quoi. Donc plusieurs jours après, je comparais de nouveau, là où cette fois, le dossier a été signé partout. Le juge m'accorde ma liberté conditionnelle, donc avec une caution de 5 000 $ que mon employeur paye, et avec une sortie sous bracelet électronique. C'était un vendredi, il me semble, ce jugement-là, vendredi matin, et je suis libéré le lundi 1er avril, à la frontière du Mexique, côté américain, à 3h du matin, où on m'enlève mes menottes devant tout le monde dans la rue, sur une station de bus, bracelet électronique apparent... Pas d'argent, j'ai aucun moyen de communiquer, ou je connais pas du tout la ville. J'avais pas de papier, j'avais rien. J'arrive à monter dans un taxi où je lui dis, bon bah si je peux utiliser ton téléphone, je pourrais appeler le consulat. J'avais son numéro sur un morceau de papier. Et du coup, le taxi accepte de m'emmener à cet endroit. C'est le consul qui m'héberge une soirée. Je prends ma première douche, voilà. Juste avant de me libérer, on m'avait donné un papier de ICE qui disait, bon bah écoute, si tu veux retourner à ton domicile dans l'état de Connecticut, juste à côté de New York, tu montres ce papier, ça ira. Par contre, t'as plus ton passeport, t'as plus ta carte d'identité, t'as plus ton permis américain, t'as plus rien. Donc je demande à mon père de m'acheter un billet d'avion à San Diego, New York. Le lendemain matin, je me rends à l'aéroport, je me ramène à la sécurité, à la TSA. Et j'essaie de leur expliquer, bon bah écoutez monsieur, j'ai un bracelet électronique, j'étais avec ICE, j'ai pas mon passeport, j'ai aucun papier d'identité, mais j'ai ce papier de ICE qui prouve que je peux passer à travers cette sécurité. Et la sécurité aérienne aux États-Unis dans les aéroports me dit, bah écoutez, on n'a jamais vu ça monsieur. Les procédures ont pris 5-6 heures, ils ont appelé ICE de nouveau, DHS, la police judiciaire en fait aux États-Unis. Et en fait je me dis, mais j'ai pas envie qu'ils appellent tout ça parce que j'ai peur de retourner en prison en fait. Au bout de 5 heures, ils me font des fouilles corporelles partout, sac complet, me laissent passer. Et je prends l'avion comme tout le monde en fait, et j'ai le bracelet électronique, et je me dis en fait j'ai peur qu'il sonne dans l'avion quoi. Tout se passe bien, au final j'arrive à New York, une amie me récupère, et j'arrive à mon domicile, où il n'y avait pas encore mes colocs étaient au travail. Et je suis dans la maison, et en fait je me pose sur le canapé, et je me dis mais j'ai rien compris quoi, rien compris. Mes colocs arrivent, mes amis arrivent, et je suis juste là, en fait, j'essaye de discuter comme si de rien s'était passé, en fait, je voulais pas trop montrer ce que je ressentais, mais j'étais mort à l'intérieur, quoi. J'étais détruit mentalement, quoi. Je me dis que j'ai passé juste un seul mois, j'imagine même pas la douleur que les gens de 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans peuvent ressentir, en fait. J'imagine pas. J'étais en stress complet... Des nuits où je dormais pas, où j'ai juste envie de partir, quoi. J'ai envie de ce cauchemar se termine. Au final, sur toute la durée de détention, j'ai perdu 7 ou 8 kilos, il me semble. Voilà. Donc j'avais un jugement final. Où on passe devant le juge et on dit, bon bah écoutez, moi je veux soit rester aux États-Unis, soit je me déporte volontairement. Moi très clairement, je leur ai dit, écoutez messieurs, j'ai déjà payer mon billet d'avion, je me déporte volontairement. Vous n'avez aucune charge sur moi, j'ai tout, déjà tout payé, je m'assure que tout soit fini, je rends mon appartement, je vends mes voitures. Vous n'avez rien à faire, c'est moi qui fais tout, je pars. Le juge m'a donné, il me semble, jusqu'au 13 mai pour partir. Et j'avais mon billet d'avion pour le 13 mai. Du coup, bracelet électronique jusqu'au 13 mai, pas de papier, rien. Je dois aller pointer au bureau de ICE pour mon bracelet électronique toutes les semaines. Ça, j'avais vraiment peur, il y avait beaucoup d'histoires déjà où des gens allaient pointer au bureau et en fait se faisaient reprendre par ICE directement. Donc à chaque fois, des amis m'amenaient parce que j'avais plus le droit de conduire, c'était à 1h30 de chez moi. Donc à chaque fois, je disais à mes amis, bah, vous me déposez, par contre vous partez directement, quoi, parce que j'ai peur qu'il vous arrive quelque chose aussi. Je demandais mes papiers à chaque fois, est-ce que je peux avoir au moins mon passeport pour pouvoir partir en France? De toute façon, vous voulez que je parte, j'ai envie de partir aussi, donc le passeport, ça peut que nous arranger nous deux, quoi. Non, non, monsieur, vous allez récupérer votre passeport à la fin, donc ok. Ce qui n'a aucun sens, pareil aussi, on nous enlève le bracelet un jour avant de prendre l'avion. Donc en fait, la personne qui veut vraiment rester aux États-Unis a fait bon, bah ok, je pars, enlevez-moi le bracelet. Et puis, à part dans un autre état aux États-Unis, jamais on la retrouve, quoi, en fait. Voilà, donc on me redonne le passeport un jour avant. En allant à l'aéroport, non, je me suis dit, c'est bon, là, c'est. Je suis dans le terminal, et il ne va plus rien se passer, j'ai juste à monter dans l'avion. Air France, merci, au revoir, quoi. Les premiers mois en France étaient assez compliqués. Bon, bah, j'ai pas forcément très bien dormi. J'étais en dépression. Ça faisait 8 ans que j'avais quitté la France. Et puis, en fait, j'ai dû réapprendre à vivre en France. En fait, la culture est différente. Le système est différent. Donc, non, c'était un choc. Et puis, même, ma vie était aux États-Unis. Mes amis étaient aux États-Unis. Donc, c'est un pays où j'ai vécu là pendant 8 ans. J'ai grandi de 17 ans à 25 ans. J'ai quasiment appris toute ma vie d'adulte là-bas. Qu'est-ce que je fais en France, quoi? Après, bon, voilà, j'avais ma famille qui était là, vraiment pour m'aider. Et maintenant, je suis de retour dans la vie active. Un appartement à Paris. C'est du passé, maintenant, en fait. La vie continue et continuera. Après avoir vécu ça aux États-Unis, avoir eu cette expérience, en fait, voir les événements de Minneapolis avec les assassinats, ces deux morts, ça m'a rappelé, bah ouais, des mauvais souvenirs, ça c'est sûr, mais quand on voit des manifestants en train d'exercer leur droit de manifester, se faire tuer par la police d'immigration, on commence à se dire, en fait, ouais, mais ça devient une police politique, quoi. Une police politique. Voir des pratiques pareilles arriver aux États-Unis, en fait, on se dit que ça pourrait arriver en France et c'est la dernière chose qu'on aimerait voir ici, en fait.
C'était Un Français détenu par l'ICE, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Julien Pereira, à Adjera Mohamed et à Gabriel Dubois de La Gaîté Lyrique, l'attaché de production des Pieds sur Terre. C'est Valentin Rémy et notre nouvelle stagiaire, c'est Adèle Toquet.